de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sans Femmes, Radio Zone. Comme tous les mercredis à partir de 18h30, c'est la Lune dans vos oreilles sur 93.8 MHz. C'est aussi la Pleine Lune au numéro de téléphone suivant, le 450 40 51 41 059 depuis la Suisse. Et puis nous avons aussi une adresse, Ondes Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la Pleine Lune et ensuite place à la musique. Musique de femme, Marjolaine a mis son cœur en repos pour mieux se préparer à l'ouvrir avec le printemps d'ici quelques jours, peut-être dans une semaine ou deux. Marjolaine reviendra comme tous les mercredis à partir de 19h sur les ondes de 93.8. En attendant, on lui envoie un gros bisou. Quant à nous, restez à l'écoute parce que dans quelques instants, c'est les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8, nos nouvelles. En Russie, le planning familial est en butte à des nouvelles résistances. Ces derniers mois, les associations qui informent sur la contraception ou promeuvent le port du préservatif dans le cadre de la lutte contre le sida ont vu leur action sabotée par des groupes religieux, mais également les autorités ont mis tout ce qu'elles pouvaient pour freiner. Ainsi, une campagne de prévention du sida par affichage lancée par l'AFP, l'Association pour le planning familial, a été complètement sabotée à Moscou. Les membres de la RPF ont subi un premier choc en novembre déjà lorsque des militantes de l'Union orthodoxe des femmes de Russie, particulièrement agressives, ont saboté l'une des actions dont ils étaient partie prenante, le tramway nommé Désir. C'est dans ce véhicule transformé en salle de conférence mobile que les moscovites étaient censés pouvoir assister à des exposés sur la contraception. Les fondamentalistes ont bombardé le tramway avec des œufs, l'ont couvert de graffitis injurieux et il a fallu renoncer au projet. Mais les gens de la RPF ont trouvé curieux que les autorités ne prennent aucune mesure pour faire cesser les exactions des extrémistes. À la fin de l'année dernière, c'est une autre campagne d'affichage, cette fois-ci, des grands panneaux publicitaires, clips télévisés, portant le slogan « L'amour protégé, c'est mon choix ». Donc une campagne visant à prévenir le sida, cette campagne a été subrepticement interdite à Moscou. Tout cela fait dire à la directrice du Centre moscovite de planning familial pour la jeunesse qu'une partie de la population de cette ville n'accepte pas le travail des associations. Il est vrai qu'aujourd'hui en Russie, l'Église orchestre une vague de puritanisme. Les domaines que l'Église orthodoxe reconnaît comme relevant de sa compétence s'étendent comme des cellules cancéreuses, écrit un journal. On a commencé avec l'éducation sexuelle à l'école, puis la guerre contre la diffusion du film de Scorsese, la dernière tentation du Christ. Et enfin, la Russie occupant désormais la première place mondiale pour ce qui est du rythme de propagation du sida, la question de la protection lors des rapports sexuels est devenue cruciale, mais l'Église, bien entendu, met son veto. La lutte contre l'avortement également est tout à fait à l'ordre du jour de l'Église orthodoxe, puisqu'on peut lire dans l'Église scande tout le temps « Si tu ne veux pas de ton enfant, donne-le-moi ». En Nouvelle-Guinée, la firme Magie affame les femmes. Le bouillon Magie, et oui, le fameux bouillon qui parfume, si l'on peut dire, les cuisines un peu partout dans le monde, en tout cas en Suisse, s'impose également sur le continent noir. En Guinée, face au puissant groupe suisse de Nestlé, ce sont les femmes marchandes de condiments locaux qui résistent tant bien que mal. Que Dieu fasse disparaître de ce pays ce maudit magie qui m'empêche d'avoir de l'argent, clame une vendeuse de condiments en Guinée. Après chaque prière, nous devons solliciter du Tout-Puissant l'extirpation de magie des habitudes alimentaires du Guinée, renchérit une vieille femme de Conakry. Plus posément, mais non moins fermement, une agronome du ministère de l'Agriculture propose « L'État devrait interdire ce magie qui enrichit des entreprises étrangères tout en appauvrissant les femmes rurales. » Entre le bouillon magie et les femmes guinéennes, rien ne va donc plus. Ou plus exactement, les productrices et marchandes de Soumbala, un condiment local à base de graines de néré, et Nagi, qui est un produit de la société suisse Nestlé, qu'on connaît bien ici. Cette société Nestlé ne lésine pas sur les moyens en matière de publicité. Imprimée dans les journaux, chantée à la radio, jouée à la télévision, personne n'échappe au petit cube. Pas même au fond de la brousse. Magie, le secret de la bonne cuisine. Magie, convainc le mari de la bonne cuisine de son épouse. Magie, t'évite d'avoir une co-épouse à la maison. Magie, chasse le pilon. Avec magie, on fait le repas à temps. Ces slogans sont partout. Comment ces vendeuses de Soumbala, sans moyens et sans accès aux médias, peuvent-elles lutter contre ce matraquage publicitaire? Mais une chose est sûre, la consommation de Soumbala a fortement baissé. Selon les vieilles personnes, seules les vieilles personnes en utilisent encore. Ce produit traditionnel est désormais considéré comme l'aliment du pauvre, alors que le bouillon magie fait moderne. La mévente de Soumbala est une vraie catastrophe pour les femmes de la campagne. Un jeune ou une femme pouvant gagner près de 1000 francs CFA, ça veut dire environ 10 francs français par jour, en vendant du Soumbala. Aujourd'hui, bien entendu, cette source de revenus s'est effondrée. Pour compenser leur manque à gagner, certaines femmes se concentrent aujourd'hui aux cultures maraîchères, mais elles n'y arrivent pas. Pour sortir de ce mauvais pas, chacun y va de sa solution. Notre salut se trouve dans la vente de Soumbala, mais à une condition: que l'État interdise cette saloperie de magie, dit une marchande. À défaut d'interdire l'importation, l'État n'a qu'à surtaxer le magie pour dissuader le consommateur de l'acheter, suggère même une ancienne maraîchère. Ila fola ila fola. Aux États-Unis, la peine de mort continue à frapper. C'est devenu totalement banal. Après l'histoire de Carla Tucker, qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité un léger débat sur la peine de mort, c'est une femme de nouveau, une noire de 54 ans, qui attend la chaise électrique le 13 mars en Floride. Mais son cas, bien sûr, n'intéresse personne. Elle est noire, que dire. L'exécution la semaine dernière au Texas de Carla Tucker avait relancé le débat sur la peine de mort aux États-Unis. Condamnée pour un double meurtre commis sous l'emprise de la drogue, la jeune femme avait reçu le soutien d'adversaires traditionnels de la peine de mort, mais aussi d'une partie de l'opinion et des chrétiens du pays. Même le pape y avait été de sa petite chansonnette. Le cas de Judy Buenohan, lui, ne fait pas de vagues. Elle n'a pas cette chance. Surnommée la veuve noire pour avoir tué son premier mari et son fils handicapé, elle est considérée comme une tueuse implacable et suscite peu la sympathie. Ancienne serveuse, propriétaire d'un salon de manicure, elle est l'une des 7 femmes en attente d'être exécutée en Floride et devrait devenir aux États-Unis la 3e femme exécutée aux États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. Madame Buenamono, qui était condamnée donc, pour ce double meurtre, et selon sa fille, n'a pas peur de mourir parce qu'elle ira dans un endroit meilleur. En effet, sa vie a été terrible, victime de mauvais traitements, d'abus sexuels pendant son enfance. Tout cela l'a condamnée et elle a en plus perdu sa mère à l'âge de 4 ans et vécu dans plusieurs familles d'accueil. On peut penser que ce n'est pas seulement sa mauvaise nature, mais peut-être toute la manière dont elle a grandi qui est cause de sa violence. Le ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire part en guerre contre les abus sexuels infligés aux écolières qui bien souvent se retrouvent précocement enceintes des œuvres de leurs professeurs. 37% des petites Ivoiriennes quittent l'école prématurément pour grossesse non désirée. Très souvent, ce sont les enseignants qui sont en cause. En Côte d'Ivoire, explique une représentante ivoirienne des droits de la femme, les fillettes sont habituées à obéir au doigt et à l'œil aux adultes, surtout s'ils détiennent le pouvoir. Et les enseignants ont des moyens de persuasion très efficaces. Ils menacent l'écolière de la faire échouer si elle résiste, ou au contraire de lui donner des bonnes notes si elle cède. Ce chantage est si courant qu'il porte un nom évocateur, le NST, pour notes sexuellement transmissibles. Les parents laissent faire car ils rêvent d'un bon mariage, mais l'histoire se termine rarement par des noces, encore moins par une plainte. Tout au plus, l'instituteur est-il discrètement muté et l'on n'en parle plus. Le ministre compte mettre un terme à ces agissements en promulguant une loi lui permettant de poursuivre les auteurs d'abus sexuels au nom de leurs victimes. Malgré ces dérives scolaires, le ministre cherche aussi et surtout à promouvoir la scolarisation des filles. Elles ne sont encore que 42% en Côte d'Ivoire à suivre l'école primaire. Dans le même chapitre des histoires terribles, c'est le gouvernement espagnol qui a décidé de définir une vigoureuse stratégie contre la violence conjugale. Un phénomène alarmant, révélé par une série de faits divers horribles, dont le dernier en date s'est terminé par la mort de cette femme, brûlée vive par son ex-mari parce qu'elle avait dénoncé à la télévision les sévices qu'il lui avait fait subir pendant des années. Un cas loin d'être isolé. En 1997, 60 femmes ont été tuées en Espagne par leur conjoint. Et la même année, 19 000 plaintes pour mauvais traitement ont été déposées. Des chiffres spectaculaires et néanmoins bien en dessous de la réalité, à en croire les associations féministes qui estiment que seul un cas sur 10 est dénoncé. Il fallait donc intervenir avec un programme choc. Le Conseil des ministres propose une action en 4 temps, la mise en place dans les commissariats de police d'une cellule d'assistance aux femmes, la création de nombreux centres d'accueil où les femmes maltraitées pourront se réfugier avec leurs enfants, le lancement d'une campagne publicitaire de sensibilisation et une réforme du code pénal visant à durcir les peines et empêcher les maris dangereux d'approcher le domicile conjugal. En France, Dominique Voynet s'est rendu hier à Vingrau, dans les Pyrénées-Orientales, où 6 femmes sont en grève de la faim depuis 10 jours pour protester contre l'exploitation d'une carrière par la firme Omia. Depuis 8 ans, une bataille juridique oppose les habitants de la commune de Vingrau, hostiles à l'extension de la carrière et la société qui l'exploite. Ils estiment que la nouvelle carrière pourrait nuire aux vignobles de la région. Toujours en France, expulsion d'une jeune Zaïroise, Mamie Tencelé, une jeune Zaïroise en fuite vers Londres qui demandait l'asile politique en France, a été renvoyée de force vers Douala au Cameroun. La jeune fille, dont le père est un ex-colonel des services secrets, mobutiste, était arrivée en février de Kinshasa après un malentendu avec la police camerounaise qui entendait la placer en garde à vue pour la renvoyer au Zaïre. Elle avait été prise en charge par le Haut Commissariat aux réfugiés du Cameroun qui instruit actuellement sa demande d'asile. En France, pour les régionales, une liste de femmes, comme en Ardèche, dans le Bas-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, dans le Pas-de-Calais, ailleurs encore, une liste exclusivement féminine est proclamée, indépendante des partis politiques. Elle sera présentée dans le Nord. Les membres des femmes du Nord ont des sensibilités recouvrant l'éventail des gauches à droite, à l'exclusion des extrêmes. En Allemagne, un procès fait ressurgir le spectre de l'eugénisme. Le 15 décembre, la Cour constitutionnelle de l'RFA s'est prononcée par 2 fois sur la responsabilité médicale dans un cas de stérilisation non réussie et de conseil génétique erroné. 2 enfants sont donc concernés. Ils ont une histoire très différente. Tous 2 sont nés au milieu des années 80. Une fille, un garçon. Le cas numéro 1, c'est un garçon, quatrième enfant d'un homme qui avait volontairement subi une vasectomie, mais il a eu un enfant. C'est pourquoi, de l'avis de la Cour, la mère est en droit de réclamer des dommages et intérêts et le médecin, qui aurait mal pratiqué la vasectomie, est tenu de s'acquitter d'une pension alimentaire de dédommagement. Dans le second jugement, un autre médecin également condamné à payer des indemnités à la mère et une pension alimentaire pour l'enfant mis au monde. Ici, pour parler cru, le préjudice subi, ce n'est pas l'enfant en soi, mais le fait qu'il soit handicapé. Handicapé mental et physique. Les parents avaient subi des tests puisqu'ils avaient déjà un autre enfant handicapé. Ils avaient demandé un conseil à des spécialistes et s'étaient soumis à des examens génétiques pour exclure tout risque d'un enfant génétiquement malade. Le médecin avait parlé d'une extrêmement improbable le cas d'un autre enfant handicapé. Il a donc été condamné puisque l'enfant est handicapé. Au-delà du jargon juridique, cette décision pourrait avoir des graves conséquences. En effet, elle rapproche un peu plus le droit allemand de la pratique et des objectifs du contrôle génétique de l'espèce humaine. En fait, on en arrive à une espèce d'eugénisme, puisque on va pouvoir non seulement choisir d'avoir un enfant sain ou pas, mais de poursuivre le médecin si l'enfant, quand même, arrive en mauvais état. Les Portugaises disent non à la libéralisation de l'avortement. Le 4 février, le Parlement portugais a commencé à examiner un projet de loi du Parti socialiste visant à autoriser l'avortement jusqu'à 10 semaines de grossesse. Mais ce texte fait l'objet de vives critiques. Plusieurs sondages indiquent une forte opposition, y compris de la part des femmes, à toute libéralisation de l'avortement. Selon une enquête, 57% des femmes veulent le maintien en l'état de la loi actuelle qui interdit l'avortement, sauf en cas de viol ou de danger pour la santé physique et psychique de la mère. Le même sondage indique que 60% des personnes interrogées, hommes et femmes, confondues, ne reconnaissent pas aux députés la légitimité de légiférer sur la question et exigent un référendum populaire. En Inde, une vague d'enlèvements d'hommes célibataires mariables se propage, surtout dans les régions pauvres. En cette saison des mariages, les hommes célibataires de la région du Bihar rasent les murs pour cause. Dans cet état de l'est de l'Inde, ils risquent d'être enlevés, forcés à épouser des inconnus. Chaque année, nombre d'eux sont kidnappés, battus jusqu'à l'évanouissement, puis mariés, selon les rites hindous. C'est ce qu'expliquent les fonctionnaires de la capitale de l'État. Au fil des ans, cette pratique a fini par recevoir l'approbation tacite de toute la population. Les parents des jeunes filles sont contraints de recourir à des unions forcées par les exigences excessives des futurs mariés en matière de dot, notamment dans la caste des Yadavs, les agriculteurs, en pleine ascension sociale. La situation de cette région contribue à perpétuer cette tradition, puisqu'au Béar, qui est très très pauvre, il y a également énormément de violence et la plupart des personnes ont des armées, les politiciens comme les propriétaires de terrain ont des armées privées. L'état de droit n'existe en fait qu'en théorie. Le système des enlèvements est parfaitement rodé. Les parents arrêtent leur choix sur un homme en se fondant sur des critères de caste, de milieu. Les frais du mariage sont négociés en fonction du statut du candidat avec l'une des multiples équipes d'enlèvement de célibataires qui ont fleuri dans la région. La livraison sous 8 jours est garantie, ainsi que la docilité du futur marié, battu, mis au secret pendant des jours, parfois après avoir été enlevé en plein jour dans un autobus ou dans un train. Les victimes les plus prisées sont les membres de l'administration, suivis des médecins, des hommes d'affaires et des cadres. Bon nombre de célibataires à risque sont si méfiants qu'ils évitent autant que possible de sortir seuls durant la saison du mariage hindou, c'est-à-dire mai, juin, décembre, janvier de chaque année. « En France, c'est une Française, chercheuse à l'Institut Pasteur, qui a reçu le premier prix pour les femmes de la science. Ce prix a été mis sur pied parce que les femmes dans les travaux sont rarement citées, malgré leur qualité. C'est donc pourquoi cette nouvelle distinction a été créée par l'UNESCO. C'est Pascal Cossard qui a été distingué pour ses recherches sur l'agent de la listériose, cette infection qui se transmet entre autres à travers le fromage et qui touche surtout les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons. Les 12 scientifiques membres du jury ont également récompensé 3 autres femmes, la biochimiste nigériane Grace Taylor, la botaniste chilienne Gloria Montenegro et la microbiologiste coréenne Myung Yeou. La Canadienne Louise Fréchette, 51 ans, a été nommée vice-secrétaire générale de l'ONU. C'est diplomate née à Montréal, diplômée en arts et histoire et économie, a été vice-ministre de la Défense au Canada. Les femmes seront admises dès avril dans l'artillerie britannique, à condition de passer les pénibles tests physiques imposés aux hommes. C'est le seul secteur de l'armée où elles pourront se battre de loin en maniant le canon ou en programmant des missiles. En Indonésie, 2 femmes se liguent pour faire tomber Suharto, le président septuagénaire de l'Indonésie. La première est la fille de Sukarno, fondateur de l'Indonésie, qui a été donc démis de ses fonctions par un coup d'État il y a 33 ans par le même Suharto. Et puis l'autre, lors d'un coup d'État suivi d'une sanglante répression. Son nom, c'est Megawati Sukarno pour Tri, dite Mega. La seconde, c'est Dewi, la veuve du même Sukarno. Mega est une femme très populaire, leader de l'opposition, et elle accuse Suharto de corruption et d'avoir créé la crise économique qui secoue l'Indonésie en détournant à son profit l'aide américaine. Sa belle-mère Dewi a appuyé sa démarche dans une lettre publique demandant à Bill Clinton de verser les fonds au peuple et non à Suharto. Le journal Le Guardian à Londres s'interroge sur cette mode qui tend à dire que les comportements de la criminalité à l'homosexualité sont dus à nos gènes. Attention, disent-ils, on impose un nouvel ordre moral. Car pour si un homme est un homosexuel parce qu'il a un cerveau gay, lui-même issu des gènes gays, une femme est déprimée en raison de ses gènes, favorisant la dépression. Quant à la violence dans les rues, elle est due aux gènes de la violence ou de la criminalité. Et si l'on se saoule, cela dit, est dû à des gènes favorisant l'alcoolisme. Ce déterminisme se résume à un mauvais scénario scientifique, mais il a des graves conséquences sociales. Ainsi, la violence des sociétés modernes ne s'explique plus par la misère des banlieues, par le chômage, par la disparité entre riches et pauvres, ou par la perte d'espoir en une société meilleure. C'est les gènes. De même, paradoxalement, on leur fait porter un tel poids de responsabilité et en même temps, on les met hors de cause. C'est votre faute, mais ce n'est pas vraiment votre faute. Ce n'était pas moi, c'était mes gènes, pourrait-on dire. De même, si l'homosexualité est dans les gènes, un homosexuel ne devrait pas être considéré comme moralement coupable dans une société homophobe, puisqu'il suit ce que lui dictent ses gènes. Il est donc peu surprenant qu'une frange de la communauté des gays et lesbiennes ait chaleureusement accueilli ces affirmations qui les placent en véritable minorité ethnique. Mais l'autre conséquence sociale du déterminisme, c'est que l'attention et le financement sont détournés du social au profit du moléculaire. Il devient ainsi plus productif d'étudier les racines du tempérament violent des bébés et des jeunes enfants plutôt que de légiférer pour interdire, par exemple, les armes à feu. En France, calquée sur le modèle londonien, une agence offre des chevaliers servants aux femmes qui le désirent. Mais ce n'est que pour quelques heures de compagnie et rien de plus. à Londres, un succès d'estime. Et cette agence similaire donc, s'est ouverte à Paris à l'intention de celles qui désirent louer pour un soir la compagnie d'un homme en tout bien, tout honneur. Ce sont ni des gigolos, ni des Apollons, ce sont des gentlemen walkers. Ils sont censés avoir du charme, des bonnes manières, de la conversation. Les clientes, eh bien, ce sont les femmes d'affaires célibataires qui craignent de faire tâche avec sa solitude. La riche étrangère qui n'ose se promener seule à Paris, la divorcée qui veut donner le change, la jolie fille qui se fait harceler lorsqu'elle n'a pas un homme, la timide qui n'ose pas entrer au restaurant, enfin d'une façon générale, toutes celles qui ont les moyens de sortir 20 000 francs, 2 000 francs pour 4 heures de compagnie masculine. Cela fait tout de même cher la soirée. Je vous rappelle que d'ici le 23 février, l'Action mondiale des peuples recevra des délégués venus de le monde entier pour discuter des effets de l'Organisation mondiale du commerce sur la vie quotidienne au sud comme au nord et pour organiser des actions dans chaque pays contre l'Organisation mondiale du commerce. Ces actions auront lieu au mois de mai puisque c'est au mois de mai que l'Organisation mondiale fêtera ses 50 ans à Genève avec toute une tripotée de personnes importantes, Clinton et Cole, pour ne citer que. Cette action mondiale du peuple contre les libre-échanges à l'OMC sera donc à Genève du 18 au 27 février. Du 18 au 23 février, ce sont des tables rondes organisées par thème, entre autres une soirée le 21 février à l'Université ouvrière autour du thème « Les femmes et l'OMC » et puis d'autres tables rondes. Et depuis le 23 février, les délégués, on attend 600 personnes venues du sud comme du nord de la planète discuteront des différentes actions et des différentes coordinations entre les actions. En tout cas, le comité d'accueil à Genève recherche toujours des gens qui pourraient loger les délégués. Alors, si ça vous intéresse, un téléphone, le 344 47 31, je répète, 344 47 31. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé pour les tables rondes, vous pouvez également vous informer à ce même numéro. J'aimerais également vous signaler que Espace Femmes International relance cette année l'idée d'un festival de films de femmes autour du 8 mars. Aujourd'hui, cette année, ce sera autour du thème Espace Méditerranée qu'on pourra visionner une dizaine de films extraordinaires. Et en parlant de films, j'aimerais vous en citer conseiller deux qui se donnent aujourd'hui à Genève, au cinéma Scala. Tout d'abord, le film de l'Indienne Dipa Mehta, Fire. C'est un film intéressant. Déjà, on n'a pas beaucoup d'écho de la filmographie féminine en Inde. Mais en plus, ce film raconte l'histoire de deux femmes qui ont une liaison amoureuse. Et l'homosexualité, surtout féminine, étant un tel tabou en Inde, c'est vraiment un film qui a fait scandale et qui a fait du bruit. C'est un film donc à voir intéressant. Et puis, un autre film que je vous conseille, toujours à Scala, c'est le Tango Lesson de Sally Potter. Sally Potter, c'était une musicienne, une saxophoniste qui jouait dans le Feminist Improvising Group avec Lindsay Cooper et Irene Schweitzer, pour ne parler que d'elle. Et elle s'est mise derrière la caméra pour une leçon de tango assez magnifique. J'aimerais encore vous parlez de concert, un dernier rendez-vous, puisque Marjolaine est en vacances, elle a fermé son cœur pour quelque temps, c'est moi qui prends très très mal la relève, juste pour vous parler d'un festival de jazz qui se donnera à l'AMR, c'est le festival Unit Record. Unit Record propose de diffuser la musique improvisée enregistrée par les jazzmen et les jazzwomen helvétiques, et donc il y a aussi, il faut les présenter live, pas seulement en disque, et l'AMR et le syndicat musical suisse organisent donc ces festivités qui commencent le jeudi 11 février avec la flûtiste Franziska Baumann, qu'on peut applaudir dans une performance en solo où la voix et l'électronique auront aussi droit au chapitre. Et puis parmi tous les musiciens, citons également la violoniste Nathalie Sodan qui qui discutera, si on peut dire, qui conversera en duo avec le pianiste Michel Vince, mais d'autres concerts dans ce festival. Quant à moi, je vous dis au revoir. La pleine lune, c'est fini. Les nouvelles sont terminées. Je vous laisse en compagnie d'un programme musical choisi, Paroles et musiques de femmes. Vous ferez le tour du continent à travers des voix de femmes et des musiques de femmes extraordinaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, que de vous dire encore? Vous rappelez notre numéro de téléphone? Ah oui, encore une fois, le 450 40 51 41 059 depuis la Suisse. J'ai essayé de faire une voix d'aéroport, je ne suis sûrement pas arrivée. En tout cas, bisous, à la semaine prochaine, et je vous laisse en compagnie de Sonia Diabaté.